Voltaire, dictionnaire philosophique, matière. Les sages à qui on demande ce que c'est que l'âme répondent qu'ils n'en savent rien. Si on leur demande ce que c'est que la matière, ils ont la même réponse. Il est vrai que des professeurs et surtout des écoliers savent parfaitement tout cela. Et quand ils ont répété que matière est étendue et divisible, ils croient avoir tout dit. Mais quand ils sont priés de dire ce que c'est que cette chose étendue, ils se trouvent embarrassés. Cela est composé de parties, disent-ils. Mais ces parties, de quoi sont-elles composées? Les éléments de ces parties sont-ils divisibles? Alors, ou ils sont muets, ou ils parlent beaucoup, ce qui est également suspect. Cet être presque inconnu qu'on nomme matière est-il éternel? Toute l'Antiquité l'a cru. A-t-il par lui-même la force active? Plusieurs philosophes l'ont pensé. Ceux qui le nient sont-ils en droit de le nier? Vous ne concevez pas que la matière puisse avoir rien par elle-même. Mais comment pouvez-vous assurer qu'elle n'a pas par elle-même les propriétés qui lui sont nécessaires? Vous ignorez quelle est la nature et vous lui refusez des modes qui sont pourtant dans sa nature. Car enfin, dès qu'elle l'est, il faut bien qu'elle soit d'une certaine façon, qu'elle soit figurée. Et dès qu'elle est nécessairement figurée, est-il possible qu'il y ait d'autres modes attachés à sa configuration? La matière existe, vous ne la connaissez que par vos sensations. Hélas, de quoi servent toutes les subtilités de l'esprit depuis qu'on raisonne? La géométrie nous a appris bien des vérités, la métaphysique bien peu. Nous pesons la matière, nous la mesurons, nous la décomposons. Et au-delà de ces opérations grossières, si nous voulons faire un pas, nous nous trouvons dans nous l'impuissance et nous trouvons devant nous un abîme. Pardonnez de grâce à l'univers entier qui s'est trompé en croyant la matière existante par elle-même. Pouvait-il faire autrement? Comment imaginer que ce qui est sans succession n'a pas toujours été? S'il n'était pas nécessaire que la matière existât, pourquoi existe-t-elle? Et s'il fallait qu'elle fût, pourquoi n'avait-elle pas été toujours? Nul axiome n'a jamais été plus universellement reçu que celui-ci. Rien ne se fait de rien. En effet, le contraire est incompréhensible. Le chaos a, chez tous les peuples, précédé l'arrangement qu'une main divine a fait du monde entier. L'éternité de la matière n'a nuit chez aucun peuple au culte de la divinité. La religion ne fut jamais effarouchée qu'un Dieu éternel fût reconnu comme le maître d'une matière éternelle. Nous sommes assez heureux pour savoir aujourd'hui, par la foi, que Dieu tira la matière du néant. Mais aucune nation n'avait été instruite de ce dogme. Les Juifs même l'ignorent. Le premier verset de la Genèse dit que les dieux Elohim n'ont pas Eloi, firent le ciel et la terre. Il ne dit pas que le ciel et la terre furent créés de rien.
Philon, qui est venu dans le seul temps où les Juifs aient eu quelque érudition, dit dans son chapitre de la création, « Dieu étant bon par nature, n'a point porté envie à la substance, à la matière, qui par elle-même n'avait rien de bon, qui n'a de sa nature qu'inertie, confusion, désordre. Il daigna la rendre bonne de mauvaise qu'elle était. » L'idée du chaos, débrouillé par un dieu, se trouve dans toutes les anciennes théogonies. Hésode répétait ce que pensait l'Orient, quand il disait dans sa théogonie « Le chaos est ce qui a existé le premier ». Ovide était interprète de tout empire romain, quand il disait « Sic ubi dispositam quisquis fuit ille decum, quand geriem sequit ». La matière était donc regardée, entre les mains de Dieu, comme l'argile sous la roue du potier, s'il est permis de se servir de ces faibles images pour en exprimer la divine puissance. La matière étant éternelle, devait avoir des propriétés éternelles, comme la configuration, la force d'inertie, le mouvement et la divisibilité. Mais cette divisibilité n'est que la suite du mouvement, car sans mouvement, rien ne se divise, ne se sépare ni ne s'arrange. On regardait donc le mouvement comme essentiel à la matière. Le chaos avait été un mouvement confus. Et l'arrangement de l'univers, un mouvement régulier, imprimé à tous les corps par le maître du monde. Mais comment la matière aurait-elle le mouvement par elle-même ? Comme elle a, selon tous les anciens, l'étendue et la pénétrabilité. Mais on ne la peut concevoir sans étendue. Et on peut la concevoir sans mouvement. À cela, on répondait, « Il est impossible que la matière ne soit pas perméable. Or, étant perméable, il faut bien que quelque chose passe continuellement dans ses pores. À quoi bon des passages si rien n'y passe ?» De réplique en réplique, on ne finirait jamais. Le système de la matière éternelle a de très grandes difficultés, comme tous les systèmes. Celui de la matière formée de rien n'est pas moins incompréhensible. Il faut l'admettre et ne pas se flatter d'en rendre raison. La philosophie ne rend point raison de tout. Que de choses incompréhensibles n'est-on pas obligé d'admettre, même en géométrie ? Conçoit-on deux lignes qui s'approcheront toujours et qui ne se rencontreront jamais ? Les géomètres, à la vérité, nous diront « Les propriétés des asymptotes nous sont démontrées. Vous ne pouvez vous empêcher de les admettre. » Mais la raison ne l'est pas. Pourquoi l'admettez-vous ? Quelle difficulté trouvez-vous à croire, comme toute l'Antiquité, la matière éternelle ? D'un autre côté, le théologien vous pressera et vous dira « Mais si vous croyez la matière éternelle, vous reconnaissez donc deux principes, Dieu et la matière, et vous tombez dans l'erreur de Zoroastre et de Manès. » On ne répondra à rien aux géomètres parce que ces gens-là ne connaissent que leurs lignes, leurs surfaces et leurs solides. Mais on pourra dire aux théologiens, mais en quoi suis-je manichéen ? Voilà des pierres qu'un architecte n'a pas faites. Il en a levé un bâtiment immense. Je n'admets point deux architectes. Les pierres brutes ont obéi au pouvoir et au génie. Heureusement, quelque système qu'on embrasse, aucun ne nuit à la morale. Car qu'importe que la matière soit faite ou arrangée, Dieu est également notre maître absolu. Nous devons être également vertueux sur un chaos dépouillé ou sur un chaos créé de rien. Presque aucune de ces questions métaphysiques n'influe sur la conduite de la vie. Il en est des disputes comme les 20 discours qu'on tient à table. Chacun oublie après dîner ce qu'il a dit et va où son intérêt et son goût l'appellent.